Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez La Reine, l'émission d'information locale de Canal B, et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, l'État qui continue à déployer son plan vélo en Bretagne, interview avec l'équipe ressources régionale de soins palliatifs pédiatriques à la veille de son colloque annuel. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, la rediffusion d'un reportage sur l'exposition « Ceci n'est pas un atlas », et puis recommandations autour des OGM et des pesticides. Bienvenue dans La Reine. Comme chaque jour, on commence avec l'info que j'ai retenue pour vous. 19 nouveaux projets cyclables soutenus par l'État en Bretagne. En effet, un plan vélo et mobilité active a été lancé en 2019 à l'échelle nationale avec un fonds de 350 millions d'euros pour financer des aménagements cyclables sur une période de 7 ans, donc jusqu'en 2025, puisque le plan il date officiellement de 2018. L'objectif d'ici 2030, c'est d'atteindre les 100 000 km d'aménagements cyclables sécurisés sur l'ensemble du territoire. En Bretagne, 68 projets ont déjà été subventionnés pour un total de 17,2 millions d'euros. Une nouvelle enveloppe de 6,43 millions d'euros, ça en fait des sous-sous, va donc être ouverte pour soutenir cette fois la réalisation de 19 projets au sein de 17 collectivités. À terme, ce sont 31 km d'aménagement sécurisé en plus qui sont annoncés dans notre région. En Ille-et-Vilaine, 3 projets lauréats, on les cite. La création d'une passerelle en Pays de Château-Giron, la réalisation de la continuité cyclable entre le cœur de bourg de Saint-Sauveur-des-Landes et un pôle d'échange sur une commune voisine, et puis la poursuite d'un aménagement cyclable, cette fois du côté de Guipry-Messac. Des exemples concrets, donc financés par cette nouvelle enveloppe. On peut ajouter qu'un nouveau plan vélo EMAR a été lancé par la première ministre Elisabeth Borne en septembre 2022, c'était il y a un an. Il couvre la période 2023-2027 et prend la suite du plan vélo et mobilités actives évoqué au début de cette info du jour. Les budgets consacrés, ils ont été annoncés, ils sont plutôt ambitieux avec 2 milliards d'euros mis sur la table dont une grosse partie ira au territoire. Certains spécialistes regrettent toutefois l'absence de remise en question réelle du modèle tout voiture, symbolique par la poursuite de projets routiers qui semblent d'une autre époque. Voilà pour l'info du jour. Tout de suite, on poursuit avec une interview. Véronique Lawanan et Delphine Dérouville, bonjour.
Bonjour.
Je vous joins à distance donc pour un échange. Vous êtes toutes les deux puéricultrices dans l'équipe ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques, ERRSPP, une équipe qui est soutenue par l'association La Brise et qui organise jeudi 28 septembre sa 14e journée régionale, une journée de réflexion à destination des professionnels, mais aussi des familles et du grand public. L'événement est présenté comme ça. J'étais déjà venue à votre rencontre au début de l'année dans vos bureaux sur un des sites du CHU à Rennes. On commence par redire ce que c'est les soins palliatifs. On pense fin de vie, c'est plus large que ça?
Oui, tout à fait. Notre objectif est d'accompagner la qualité de vie des enfants qui ont des maladies graves qu'on ne peut pas guérir, pour lesquels il n'y a pas de thérapeutique, sans durée préétablie, en fait. Les enfants qui ont des maladies graves, parfois, peuvent aller continuer leur scolarité dans l'école primaire dans laquelle ils sont habitués, avoir des vacances. Les parents poursuivent leur activité professionnelle. Donc, notre équipe soutient et coordonne toutes les activités de ces enfants et de ces familles en intégrant les soins techniques adaptés à chaque enfant sur leur lieu de vie ou dans les institutions dans lesquelles ils sont accueillis.
En soins palliatifs, on s'occupe de l'enfant qui est malade, mais c'est une prise en charge, une prise en soin très globale. Et donc, on s'occupe de l'enfant, mais de sa famille, de l'entourage aussi, de l'entourage large, et puis des soignants aussi qui s'occupent de l'enfant. On est là aussi pour les soutenir. Et c'est ça notre travail de coordination, c'est de coordonner le projet de vie de l'enfant et de coordonner aussi tout le parcours de soins, donc de coordonner les professionnels de santé.
Il y a plein de parcours différents chez les enfants qui sont accompagnés, qui peuvent traverser un cancer, souffrir d'une maladie neuro-évolutive ou encore d'un polyhandicap. Et donc, vous, dans cette équipe ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques, vous cherchez, en partenariat avec d'autres professionnels de santé, parfois des associations, de satisfaire au mieux les besoins de ces enfants, mais aussi, vous l'avez dit, de leurs parents. D'abord, on commence par ça, pendant la maladie, on parle d'un besoin d'être soulagé physiquement, psychologiquement, puis aussi dans tout le quotidien qui implique la maladie.
Dans notre travail, je dis souvent que c'est surtout de s'asseoir et d'écouter au départ, parce que si on veut comprendre les besoins de l'enfant et de sa famille, il faut écouter. Et on s'appelle équipe ressources pour essayer de trouver des ressources, soit au sein de notre équipe, parce qu'on est une équipe pluriprofessionnelle. On a les compétences d'un psychologue, assistante sociale, pédiatre, puéricultrice. Donc, soit on a les ressources au sein de notre équipe, soit on va les chercher ailleurs, donc dans des associations, dans des équipes médicales, chez des libéraux, voilà.
Et pour compléter la question des besoins, tout parent et tout enfant, le premier besoin que l'on doit soulager, c'est la douleur exprimée par l'enfant. C'est sa douleur physique et sa douleur psychique.
Dans cette...
Et on ne se substitue pas aux professionnels qui sont déjà en place. On ne fait pas de soins.
Vous intervenez donc pendant la maladie, mais parfois il y a le décès qui survient dans la famille. Vous êtes aussi présent à ce moment-là, c'est important de le redire, dans votre équipe ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques. Il faut dire qu'il y en a aujourd'hui dans chaque région depuis, on va dire, une annonce gouvernementale en 2011. Votre équipe a la particularité d'avoir été quand même un peu à l'avant-garde sur ce projet, soutenu donc par une association qui s'appelle La Brise, elle lancée en 2003. Aujourd'hui, vous êtes 14 professionnels avec différentes casquettes. C'est ça aussi la force du projet de La Brise.
C'est ça la force de nos ressources. C'est d'avoir aussi des parcours professionnels différents, des compétences différentes. Et du coup, à plusieurs, on est plus fort.
Et nous avons la possibilité d'échanger entre nous. En fait, on organise notre travail auprès des enfants et des familles. Mais à l'intérieur de notre équipe, malgré, bon, nous sommes 14, mais tous à temps partiel, et nous construisons nos temps en commun pour justement réfléchir à des sujets ou répondre de façon pluri, voire interprofessionnelle, aux besoins des familles.
Vous faites partie des professionnels de l'équipe, mais il faut dire que l'association La Brise, comme toute association, eh bien, c'est aussi un projet bénévole avec aujourd'hui une dizaine de bénévoles sur la région qui font à la fois vivre l'association, mais qui interviennent aussi auprès des familles, notamment dans un objectif aussi de donner parfois du répit à l'entourage.
Oui, donc il y a deux sortes de bénévoles dans notre association. Il y a les bénévoles qui sont là pour assurer le fonctionnement de l'association, comme un trésorier, un président, voilà. Et puis, des bénévoles aussi qui participent à l'animation de l'association. Et nous, on recherche justement des forces vives pour pouvoir animer cette association. Donc, s'il y en a qui nous écoutent, n'hésitez pas à venir frapper à notre porte. On cherche des bonnes volontés dynamiques. Et on a aussi des bénévoles d'accompagnement qui sont des bénévoles qui sont formés, qui reçoivent une formation spécifique à l'accompagnement en soins palliatifs. Ces bénévoles-là peuvent se déplacer là où est l'enfant, là où est sa famille, et ont une formation d'écoute. Et c'est en ça qu'ils peuvent être ressources de répit.
Vous recherchez des forces vives, mais aussi, vous souhaitiez le dire lors de cet échange, un soutien financier. L'association appelle aux dons. C'est le signe d'un soutien insuffisant, on va dire. Je pense à l'Agence régionale de santé ou des autorités publiques, quoi.
L'Agence régionale de santé nous finance et l'association La Brise complète ce financement sur d'autres projets. On a des projets de médiation animale, de musicothérapie, mais aussi on a besoin de dons pour pouvoir nous aider au fonctionnement. On a la chance d'avoir plusieurs voitures. Du coup, on ne se pose pas de la question de là où on va, on se déplace sans réfléchir au domicile de l'enfant grâce à ces voitures, par exemple.
Vous l'avez dit au début de l'interview, nous avons été pilotes sur la France. En fait, la construction de la coordination au sein de différentes équipes ressources en France s'est appuyée sur nos pratiques. Mais justement, nos pratiques se développent et pour augmenter les chances, en fait, pour tous les enfants qui sont concernés par des maladies graves, ben, nous continuons à être pilotes. Et nos rapports d'activité auprès de l'Agence régionale de la santé mettent en avant justement toutes les activités que l'on fait en les multipliant et en les diversifiant. C'est en ça que nous sommes pilotes et que l'agence régionale nous suit dans ses financements également.
On sait combien d'enfants sont accompagnés par cette équipe ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques peut-être chaque année?
C'est aux alentours de 150, entre 150 et 170 enfants dans la file active actuellement. Ensuite, les maladies graves ne bénéficient pas de propositions curatives. Il y a plus d'enfants dans la région qui pourraient en bénéficier.
On arrive à ce congrès régional, le 14e donc de l'équipe ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques, organisé le jeudi 28 septembre du côté d'Ifindic, à 30 km à l'ouest de Rennes. À quoi ça sert un tel moment, vous, dans votre année, là, en tant que professionnel? Est-ce que c'est avant tout un temps pour s'extraire d'un quotidien qu'on imagine assez intense?
C'est un temps particulier qui est aussi intense, enfin moi j'ai envie de dire aussi intense que notre activité au quotidien dans l'année, mais qui est riche des rencontres avec tous les professionnels avec qui on travaille et un temps de convivialité où on peut échanger mutuellement nos questions. Donc ces journées qui se veulent être de formation, parce qu'il y a un thème chaque année avec des conférences et des personnes qui ont des compétences que nous n'avons pas au sein de l'équipe. Donc, c'est un partage de compétences, mais aussi un partage de moments de vie convivial.
Peut-être qu'on peut parler du thème. Et l'entrée d'un enfant en soins palliatifs, quel retentissement pour les familles et les professionnels? Tout à l'heure, je disais que la prise en soin d'un enfant en soins palliatifs était vraiment une prise en soin globale. Et donc, il faut prendre en considération l'enfant, sa famille, son entourage et les professionnels. Et donc, ça a forcément un retentissement, un impact, qu'il soit positif ou négatif, sur tous ces partenaires-là. Et c'est de ça dont on va essayer de parler, avec une approche socio-anthropologique, avec une approche systémique de la famille, avec les retentissements sur l'entourage large, et puis aussi sur est-ce que le regard des soignants change quand un enfant rentre en soins palliatifs.
La journée, elle est surtout à destination des professionnels, mais il était aussi possible de s'y inscrire, notamment quand on est étudiant ou habitant et concerné par ces thématiques. Le matin, il y aura une conférence et deux tables rondes ponctuées de capsules vidéo pour laisser aussi la parole à des familles concernées. Donc le fil rouge, c'est l'idée d'une approche globale du professionnel de santé au patient et son entourage. Seront abordés plusieurs sujets. Justement, il y a une table ronde sur le regard des professionnels de santé. Quel changement? C'est la question qui est posée. Il y a encore un besoin d'information justement auprès des professionnels qui ne sont pas forcément tous formés, sensibilisés à l'arrivée d'un enfant en soins palliatifs.
Au début, ça fait peur. S'ils n'ont pas l'habitude de recevoir des enfants en soins palliatifs, le mot soins palliatifs fait peur. Et notre travail est un peu aussi d'acculturer les soignants à une autre vision des soins palliatifs que celle de la fin de vie. Puisque quand on parle de soins palliatifs, on parle de vie beaucoup. Alors, on parle de mort aussi, mais on parle beaucoup de vie.
En fait, le parcours de chaque enfant sort d'un schéma technique que nous tous avons appris dans nos formations initiales. Et nous soutenons ces formations techniques, ces compétences, mais au regard du parcours de vie de l'enfant et de sa qualité de vie au quotidien. Et ce lien, ce trait d'union, il se construit au fur et à mesure avec toutes les équipes. Et voilà donc l'objet de notre journée est d'améliorer ce trait d'union
J'ai une question de curiosité à ce sujet-là pour les professionnels que vous êtes dans ce champ-là en tant que puéricultrice. La maladie et la mort de l'enfant sont entourées d'un tel tabou qu'on s'imagine uniquement la souffrance du parcours de ces enfants et puis de leur famille. Est-ce que votre travail à vous aussi, c'est aussi de parler de votre quotidien, peut-être pour dire que ce n'est pas que de la douleur, justement ?
Ou en tout cas, on est là pour qu'il y en ait moins, pour être attentive à cette douleur, qu'elle soit physique ou psychologique, et pour essayer de rendre plus confortable cette vie de l'enfant et de sa famille.
Dans notre travail au quotidien et dans ce lien que nous faisons entre les familles et toutes les équipes qui gravitent autour, l'objectif principal n'est pas de supprimer la douleur du vécu. L'intensité de ce qui est vécu par l'enfant et la famille reste, leur appartient. C'est du domaine de chaque être humain d'avoir des moments très intenses, difficiles. Sauf que notre objectif est d'entendre cette douleur et, comme disait Delphine, de soulager les symptômes physiques et de psychologiques éventuellement, pour favoriser la qualité des moments vécus, surtout dans les moments plus de fin de vie à ce moment-là.
Suite du programme, jeudi 28 septembre, durant l'après-midi, il y aura une autre conférence en compagnie d'une socio-anthropologue lilloise pour parler justement du regard de la socio-anthropologie sur les soins palliatifs pédiatriques. Et puis également des ateliers, 6 ateliers qui seront organisés. Les sujets abordés, impact de l'arrivée d'un enfant en soins palliatifs sur le service et sur le projet de soins. Comment en parler à l'enfant de ces soins palliatifs? Et puis, seront également proposés des ateliers découvertes de pratiques qui sont un petit peu à côté du soin, même si on comprend qu'elles ont presque aussi une dimension thérapeutique. Je peux vous laisser en dire un mot ?
Oui, il y aura un atelier avec une séance de musicothérapie et une séance de danse-thérapie. On a essayé de développer depuis déjà de nombreuses années la musicothérapie. Des enfants qui sont sensibles à la musique, des enfants qui ont une communication différente aussi et qui, grâce à ces ateliers, peuvent exprimer leur bien-être, mais aussi leur mal-être, et ça peut leur apporter surtout du confort. Et on essaye d'ailleurs en ce moment de développer l'art-thérapie. Et toute cette art-thérapie, musicothérapie, médiation animale sont financées par l'association La Brise.
C'est le moment où je vous représente, Véronique Lawanan et Delphine Desroville. Vous êtes puéricultrice dans l'équipe ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques, ERRSPP, une équipe soutenue par l'association La Brise et qui organise jeudi 28 septembre sa 14e journée régionale près de Rennes, une journée de réflexion à destination des professionnels, mais aussi des familles et du grand public. Pour plus d'informations, il y a le site internet labrise.fr. Merci beaucoup.
Un grand merci.
Marie-Jean-Nique la Gabron, oh Marie-Jean-Nique, ma fille Eurésie, Marie-Jean-Nique la Gabron, avez à ta ouest à l'entendre, tant, 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 ta domade à Marie-Jean-Nique, tant, 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 ta domade à Marie-Jean-Nique, pavez erreur comme calette, oh Marie-Jean-Nique, ma fille Eurésie, pavez erreur comme calette.
La comptine Marie-Annick, interprétée par un chœur d'enfants sur Canal B et à retrouver sur un album Comptine et berceuse de Bretagne qui est sorti chez le super éditeur jeunesse Didier Jeunesse, c'était en 2009. Et c'est donc la sélection musicale des invités qu'on vient de quitter, deux puéricultrices de l'équipe ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques en Bretagne. Vous êtes en train d'écouter La Reine, c'est l'émission d'info locale de Canal B et c'est l'heure du reportage du jour qui se trouve être une rediffusion.
Thank you.
Et oui, le reportage que vous allez entendre, il a été diffusé le 3 avril dans cette émission. C'est Elvire Moreau, volontaire en service civique durant la saison précédente, qui l'avait réalisé. Elle avait rencontré en avril 2023 Neftis Zver, une chercheuse en histoire et culture des pays germanophones, et aussi la directrice éditoriale de Ceci n'est pas un atlas. C'est un ouvrage qui est paru aux éditions du Commun début 2023. Un ouvrage, mais aussi une exposition qui est toujours à voir jusqu'au vendredi 29 septembre. Rendez-vous à la Chambre Claire sur le campus de l'Université Rennes 2 pour comprendre le travail de cette chercheuse, à savoir diffuser la cartographie critique en tant qu'outil collaboratif au service des luttes et des mobilisations. Neftis Zver, elle sera présente jeudi 28 septembre à 18h à la Chambre Claire pour un temps de finissage de cette exposition. Allez, rencontrons.
Alors, je m'appelle Neftis Zver, je suis historienne et depuis quelques années, je m'intéresse à la cartographie, à l'épistémologie de la cartographie, sur le plan historique, mais aussi sur le plan heuristique. C'est-à-dire que j'essaie de comprendre comment fonctionne la carte, quel genre d'objet social elle est, quelle réalité elle fait émerger. Mon tout premier ouvrage portait sur l'ingénierie sociale et le deuxième sur la cartographie radicale. Donc il a paru fin 21. Je l'ai écrit avec Philippe Rekasevich, qui est un géographe. Et le 24 février, donc c'est tout frais, a paru « Ceci n'est pas un atlas » aux éditions du Commun, qui est la traduction et peut-être le réagencement de l'ouvrage « This is not an atlas » paru en anglais chez l'éditeur Transcript en Allemagne en 2018. Et moi, en 2018, j'ai assisté au lancement de ce livre et je me disais « Mais oh, il existe en anglais, mais il faudrait tellement qu'il existe en français. » Et là, germait l'idée de le traduire et c'est chose faite aujourd'hui. Il émerge depuis quelques années cette idée que la carte peut être réalisée par vous, par moi, par n'importe qui, par des personnes qui ne sont pas formées à la géomatique, à la cartographie. Et donc ce livre, « Ceci n'est pas un atlas », présente des exemples. Donc un jour, Séverine Halda, qui est l'initiateur de la version anglaise, a lancé un appel à contribution à des chercheuses et chercheurs sur la Terre entière. Il a reçu énormément de réponses, c'était en 2015. On se rend compte que sur tous les continents, il y a des citoyennes et citoyens épaulés par des chercheuses, très souvent, parce que c'est quand même une technique, qui réalisent leur propre carte, qui apportent une information irremplaçable, c'est celle de l'expérience des gens de leur propre vécu de l'espace. C'est-à-dire, si vous voulez prendre un exemple très simple, les quartiers informels, que l'on appelle bidonville en français, sont représentés sur les cartes officielles, celles qui sont imprimées et distribuées partout, que vous retrouverez dans les offices du tourisme, dans des manuels, ne montrent pas les quartiers informels. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont aucune légitimité légale. Eh bien, ils seront représentés par un vide, un gris, un blanc, ou alors une forêt. On a dans le livre le cas de Kibera, au Kenya, considéré par les services publics comme une forêt. En réalité, il y a toujours des milliers de personnes qui habitent dans ces quartiers. Et ces personnes, comme elles y habitent, elles ont construit leur propre infrastructure. Il y a des écoles, il y a des commerces, il y a des cinémas, il y a des lieux de culte. Quand ces habitantes et habitants se mettent ensemble, réalisent la carte, elle devient une preuve de leur existence, nourrie par leur expérience à elles et à eux du terrain. Et donc ces cartes, une fois réalisées, elles vont forcer les pouvoirs publics à acter le fait qu'il y a des êtres humains qui habitent là, qui ont, même s'ils n'ont pas de titre de propriété, qui ont des enfants, qui ont besoin de dispensaires, qui ont besoin de tout à l'égout, etc. On va les forcer à investir dans l'infrastructure de ces lieux. Donc, ce type de cartographie, la contre-cartographie, elle va servir à montrer des phénomènes, des éléments ignorés, volontairement tu. Alors il s'agit de contre-cartographie ou cartographie radicale ou cartographie alternative. Il y a énormément de dénominations, alors elles sont construites historiquement. La notion de géographie radicale est la première qui émerge dans les années 70 aux États-Unis. C'est le géographe David Harvey qui la forge, qui est une façon de de faire de la géographie en dénonçant des inégalités, des anomalies. Et au même moment, c'est concomitant, William Bungy, également géographe nord-américain, dit que lui, il fait de la géographie critique. Donc, qui dit géographie, dit cartographie. La carte est l'un des outils de communication des géographes. C'est dans les années 70 que ça entre à l'université. Et du fait que des universitaires s'en emparent, quelque part, ça va sédimenter. Mais il faut attendre un certain temps jusqu'à ce que cela se normalise. Et donc, cette contre-cartographie, c'est Nancy Peluso qui forge le terme. Elle ne s'oppose pas à la cartographie conventionnelle, elle va utiliser très souvent sa sémiologie, c'est-à-dire son langage, mais elle va être faite par d'autres personnes, c'est-à-dire avec la société civile et avec d'autres moyens, mais ce sont des personnes qui réalisent soudain que représenter leur espace autrement que par le langage parlé, que par l'écrit, de façon graphique, et c'est vraiment un exercice assez délicat, puisqu'on n'apprend pas dans notre éducation en Occident, on n'apprend absolument pas à nous approprier les représentations de l'espace. Et là, par ce geste cartographique, soudain on se rend compte qu'on est dans l'espace, que toute notre activité se déroule dans l'espace et que nous avons quelque chose à dire là-dessus. Moi, je fais énormément d'ateliers de cartographie collective. C'est ce qui m'intéresse, c'est leur dimension collective. Pourquoi ? Parce que en faisant une carte ensemble, toujours un moment magique, c'est absolument extraordinaire, mais on s'empare d'une problématique et ça fait émerger une conscience, en fait. Alors, cette conscience, elle peut être celle d'une lutte commune, tout simplement. Nous allons défendre notre quartier de la prédation, de l'accaparement provoqué par Airbnb. Les problématiques qui peuvent se poser en Occident, il y en a énormément. On le voit aujourd'hui avec les bassines. Les bassines, c'est un sujet criant, métaphorique de la prédation capitaliste, c'est-à-dire que l'eau, un bien commun, est privatisée. C'est ça le problème. Et ce qui se passe avec les révoltes, c'est que la société civile, finalement, c'est elle qui constitue la société. Voilà. Et la cartographie, comme elle traite de l'espace, c'est un médium extraordinairement puissant pour contextualiser, pour faire émerger des convergences, des recoupements, faire des recoupements. Là, je viens de 3 jours d'atelier à Bruxelles. On a travaillé sur 3 sujets, donc je laisse les groupes choisir leurs sujets. Sont émergés la gentrification, les violences policières et les signes symboliques de la masculinité dans le paysage urbain de Bruxelles. Ça donne des cartes, 15 personnes se mettent ensemble, font ces cartes et après présentent leur travail. Et la discussion sur ce qui a été mis en évidence dure une journée. Et là, soudain, on acquiert des arguments. Et là, la société civile, elle se dote de quoi ? D'une représentation d'une problématique. Elle forge une identité dans une lutte commune. Lutte pour quoi ? Pour être ce qu'elle est, c'est-à-dire le seul objet de la politique. C'est le bien-être général et de la société civile. Et c'est ce qu'elle est en train de se réapproprier. En discutant de façon argumentée, on arrive à se forger une idée et on devient quoi ? Une citoyenne et un citoyen émancipé, tout simplement.
Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire comment est-ce que vous avez fait dans les choix éditoriaux pour permettre aux lecteurs et aux lectrices de se saisir de la contre-cartographie ?
Alors, il y avait 4 contributions au départ et souvent, elles traitent de thèmes très voisins. Donc, il a fallu faire une sélection. Après, comme le livre est doublé d'une exposition itinérante, donc qui ici commence à Rennes, les œuvres ont été imprimées en grand format et sont montrées et expliquées par des cartels assez longs quand même. Là, j'ai procédé à un autre recoupement, c'est-à-dire que vous pouvez aborder la question sous différents angles. Et pour moi, par exemple, on peut retrouver un pôle mobilité. Qu'est-ce qu'être mobile dans ce monde ? vous partez en exil. L'humanité a toujours été mobile, a toujours été migrante et le sera toujours. Et ce n'est pas parce que pour des raisons populistes de politique interne que vous allez doter Frontex de milliards d'euros que vous pourrez l'arrêter. Vous la rendrez juste plus dangereuse et ferait de nous des criminels. Donc vous avez la migration, vous avez par exemple Watch the Med ou Alarm Phone qui eux sont des plateformes qui vont capter les messages de détresse des embarcations en Méditerranée. Environnants sont obligés de secourir et ne font pas toujours, laissent mourir les gens, ce qui est aussi un crime. Et en captant ces messages, on va essayer de les transmettre aux gardes-côtes pour les obliger à intervenir. En contrepoint, ça pose bien sûr des questions sur habiter le lieu, décider du lieu où on habite et habiter ce lieu entièrement. Vous avez la question de ces quartiers informels. Nous en montrons au Bangladesh, en Afrique, en Inde. Par exemple aussi, comment vivre sans domicile fixe dans une ville qui se dit d'accueil. Et c'est un phénomène qui nous entoure, donc la cartographie, elle sert à rendre visible quelque chose que nous occultons complètement. Partout, nous sommes entourés de tentes dans la rue, de gens qui n'ont pas de toit. Ensuite, vous avez les squats, vous avez énormément de thèmes qui touchent au droit à la ville, au droit à l'habiter. Et on aborde des questions comme celle de l'histoire. Qui fait l'histoire? Qui va apporter sa pierre à la construction de l'imaginaire par rapport à un lieu, par rapport à un pays, par rapport à la terre, la petite terre sur laquelle nous habitons? On a des contributions sur les revendications autochtones. Donc ça, c'est beaucoup en Amérique du Sud, où les gens perdent leur espace de vie à cause de l'exploitation industrielle par les grandes compagnies. Et elles essaient de montrer leur usage réel du territoire et leur connaissance profonde. Donc il faut imaginer des gens qui constituent lors des ateliers des cartes à main levée qui semblent un peu enfantines, le dessin est enfantin. Pourquoi ? Parce qu'elles représentent la faune, la flore, les usages du sol. Et lors des ateliers, ces cartes après sont reprises. Les personnes partent sur le terrain avec des GPS, donc apprennent à s'approprier un outil et vont faire des relevés exacts des emplacements, produiront des cartes qui peuvent servir devant les tribunaux à montrer l'usage exact d'un espace et pourquoi il ne faut pas venir l'exploiter industriellement. Et bien sûr, on a aussi le thème du féminisme qui pour moi est la meilleure perspective pour analyser ce monde et le comprendre. Et donc on a par exemple des cartes de Vienne, le Gender Atlas qui montre, bon c'est un classique de la cartographie, comment sont nommés les noms de rues selon des personnages féminins ou masculins, où l'on constate énormément de déclinaisons de la problématique, c'est-à-dire que seront attribuées aux femmes des petites places, des petites rues, des ruelles, et aux hommes, de toute façon majoritaires, les grandes avenues. Après, on a aussi l'exemple de Haras Map en Égypte, qui est une plateforme qui recense toutes les agressions sexuelles dans l'espace public que subissent les femmes. Donc on peut faire une déclaration, elle est documentée, ça permet tout simplement de faciliter la déclaration, vous n'êtes pas devant un policier qui vous méprisera, et surtout ça rendra visible le problème. Ensuite on a des cartes, Élise Olmedo, une chercheuse, a fait des cartes en tissu avec des femmes du Maroc, des femmes d'un quartier défavorisé qui peuvent exprimer par un médium très familier, le tissu, à quoi ressemble leur vie, quels sont les espaces privés, les espaces publics, qu'est-ce qu'elles mettent en valeur, etc. Et là, c'est un exemple de ce que la cartographie fait à votre identité, au ressenti que vous avez de vous-même et à la façon dont vous pouvez vous situer dans l'espace. Parce que les femmes, soyons honnêtes, elles sont complètement invisibilisées de l'espace ou alors assignées à un certain comportement, mais aussi à certaines portions de l'espace. Et il s'agit pour les femmes de se réapproprier par différents moyens la carte en tant qu'outil de visibilisation de leur existence, tout simplement.
Cette exposition qui a lieu à la Chambre Claire à Rennes 2, c'est une exposition qui a lieu dans une université. Est-ce que justement le but c'était peut-être de faire rencontrer les étudiants et les étudiantes avec ce monde de la cartographie et cet aspect un peu subversif dont vous parlez ?
Ben, ça aussi, en ces moments agités de lutte, on en discute beaucoup. On en a discuté ici ce matin dans un colloque off qui devait accompagner l'inauguration de l'exposition. Le milieu universitaire est bien sûr sensibilité par des projets de recherche artistique. artistique ou action, de la recherche immergée à ces problématiques. Et c'est un cadre, c'est un cadre d'expression de la connaissance. Donc ça s'y prête merveilleusement. Et Benjamin Roux, qui est donc l'éditeur des éditions du Commun, qui se trouve ici à Rennes, quand il a présenté le livre, disons, on lui a immédiatement dit oui, il faut faire cette exposition. Ces cartes sont trop belles, ces projets sont trop beaux, ils sont puissants et quelque part ils sont nouveaux. La démarche est quand même assez nouvelle. Et donc le faire dans une université, oui, c'est là où peuvent se rencontrer différents types de connaissances et quelque part l'art. Et c'est merveilleux que ça ait lieu ici. Ici à Rennes, dans une région quand même extrêmement politisée, presque exemplaire de ce que peut être l'engagement citoyen.
Cette exposition qui est pour l'instant ici à Rennes, elle a une volonté d'être itinérante. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire où est-ce que vous pensez qu'elle va être plus tard ?
Elle va circuler. Donc elle est pressentie à différents endroits, en Bretagne, sur la presqu'île de Quiberon, à Marseille, à Montpellier, certainement dans la vallée de la Roya, probablement à Avignon. Nous commençons à peine à mettre cela en place, mais disons, elle est demandée un peu partout. Pourquoi ? Ben parce que c'est la première en son genre, parce qu'elle permet une rencontre des citoyennes et citoyens autour de ces thématiques, et elle initie à cette façon de faire des cartes. Donc elle provoque quelque chose de très riche. En fait.
J'ai regardé, je n'ai rien vu, de toute façon il n'y avait rien à voir, on a parlé. Elle m'a dit viens, je suis venu, elle m'a dit viens encore, je suis revenu, de toute façon je n'étais pas parti.
Pourquoi tu dis ça?
Je dis ça parce que je pense ça.
Et pourquoi tu penses ça?
Je ne sais pas. Elle m'a dit
t'as vu?
J'ai dit oui. Elle m'a dit
t'as vu?
Oui, j'avais vu. Qu'est-ce qu'elle a, ma façon de parler tout. Elle m'a dit,
c'est toujours la même chose
avec toi. J'ai dit non, c'est jamais pareil. Elle m'a dit
si,
non, des fois c'est différent.
Non.
Ton caractère, j'ai dit on l'a tous. Elle m'a dit certains plus que d'autres. J'ai dit quoi, non, rien. Je lui ai dit comme ça. Elle m'a dit
t'as une
pêche pistache. Presque tout, des yeux pièges, j'aime moi tes genoux, c'est tout. Mais c'était déjà trop. Elle m'a dit
qu'il ne faut pas tout dire,
qu'il faut tout garder pour soi. J'ai dit que ça, par exemple, j'aurais aimé qu'elle le garde. Mais c'était trop tard. Elle m'a dit
regarde-moi.
J'ai regardé, mais déjà elle était partie. J'aurais dû regarder avant. Elle m'avait dit
au revoir.
Je ne l'ai pas vu venir.
mais je ne l'ai pas uni.
French Cowboy and the One qui interprète son morceau Pistache sur Canal B. C'est une nouveauté musicale qui a été repérée par Yann, notre programmateur. Et vous pouvez retrouver ce titre sur un album, Niente, ça veut dire rien en italien. Et c'est sorti le 15 septembre sur le label Musazik. C'est le troisième disque de ce duo nantais post-punk que vous retrouverez, si vous souhaitez les voir sur scène, eh bien, au Stéréolux à Nantes le 27 octobre prochain. Voilà, vous écoutez l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B. Vous êtes sans doute branché sur le 94.0. Vous pouvez aussi nous écouter sur le DAB+, la radio numérique terrestre, et puis sur notre site canalb.fr. Pour suivre le programme, le mieux c'est sans doute de s'abonner à la newsletter Le Courrier de la Reine, une newsletter que je vous envoie chaque vendredi pour mettre en lumière un reportage, une interview et une info du jour, et avec également le sommaire des sujets abordés. Si vous souhaitez vous abonner, le plus simple c'est de m'envoyer un email à l'adresse lucie@canalb.fr. Et c'est l'heure, avant de se quitter, d'une petite recommandation. Ce sont souvent des conseils d'événements à vivre, de choses à écouter, à lire ou à voir. Là, on annonce une rencontre qui est proposée par le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest, vous le connaissez sans doute, et organisée aussi par la Bonne Assiette qui fait de la sensibilisation au bien manger. Rendez-vous vendredi 29 septembre à 20h15 à la Maison des Associations à Rennes pour écouter Christian Vélo. OGM et pesticides, on n'en est pas débarrassé. C'est le message de ce biologiste et militant parisien, car on est sans doute nombreux à penser que les OGM ne sont plus d'actualité. En effet, il n'y a plus de plantes transgéniques cultivées en France 2008. Pourtant, en plus de l'importation de plantes transgéniques venues d'Amérique pour nourrir les animaux ici, d'autres OGM agricoles échappent à toute réglementation. Ce sont les OGM cachés. Il s'agit essentiellement de tournesol et de colza, rendus tolérants à des herbicides, sans ajout extérieur, il faut le préciser, ce qui fait que ce ne sont pas des plantes transgéniques, des plantes qui sont cultivées ici, en France et en Europe. Et dans le même temps, de nouvelles techniques de manipulation génétique se développent avec un risque, nous dit ce biologiste, de généralisation des OGM dits cachés. Le détail dans une conférence, c'est vendredi 29 septembre à 20h15 à la Maison des Associations à Rennes. Les tarifs vont de 3 à 4 euros et pour plus d'infos, il y a le site victimespesticides-ouest.ecosolidaire.fr. Je vous laisse avec un extrait du dernier reportage en compagnie du collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest. Collectif qui soutient Jean-Claude, malade de Parkinson et ancien salarié d'une coopérative agricole. L'affaire est passée en justice au mois de juin et la décision est toujours attendue puisqu'elle devrait arriver, cette décision, le 15 novembre prochain. Extrait.
On a demandé au monsieur.
Est-ce que tu pourrais dire deux mots à Lucie, qui est journaliste à Canal B?
Bonjour. Si vous avez le temps, l'énergie.
Deux mots par rapport à des questions.
Non, mais qu'ils s'assoient vers là.
Oui, tout à fait. C'est du dialogue. Ah ouais. Je vais m'accroupir à côté de vous.
Je m'appelle Jean-Claude Chevrel. J'ai 73 ans et j'ai fait en grande partie ma carrière professionnelle dans une coopérative agricole. Et il se trouve que j'ai manipulé beaucoup de produits de traitement, traitement des cultures et traitement des semences. J'étais technicien semences, donc c'était mon rôle de suivre la qualité. Ça a été sur 27 ans de... Je suis arrivé en 80 et j'ai terminé ma carrière en 2007.
2007. À cette époque-là, quand on était en contact avec des pesticides, vous aviez quelle protection ?
C'est-à-dire qu'on avait des petites alertes, très petites. Il fallait prendre un masque, des exemples de masques à poussière maintenant. Mais on manipulait des produits qu'on ne savait pas toujours l'origine, parce que j'ai pas précisé, mais la première partie de ma carrière en coopérative, je faisais de l'expérimentation de nouveaux produits. Donc on ne savait pas, il n'était pas dans l'obligation de nous dire de quelle matière active il s'agissait.
C'est des produits avec lesquels vous avez été en contact à main nue ?
Oui, c'était cutané surtout. Mais aussi des produits, notamment sur les semences, qui étaient des produits qui diffusaient des fusions gazeuses. On en respirait aussi, pas mal.
Vous avez développé la maladie de Parkinson dont vous souffrez aujourd'hui. Comment vous décririez votre quotidien avec cette maladie aux gens qui ne la connaissent pas ?
Il y a beaucoup de choses au quotidien dans cette maladie de Parkinson qui sont compliquées. Il y a ce qui apparaît, donc on a des problèmes sur les os. On a fait le glissement de la capacité des os. Et moi, la conséquence pratique, c'est que je n'ai plus de dents. J'ai des problèmes de courbure très prononcés. Après, c'est des problèmes de séborrhée et de pellicule.
Au niveau de la peau ?
Au niveau de la peau, des écailles de peau. Donc ça demande plus de temps pour faire les toilettes. C'est des problèmes de transit intestinal également. C'est long à énumérer parce qu'on n'est pas tous pris aux mêmes intensités. Et je dirais qu'il n'y a pas un parkinsonien qui ressemble à un parkinsonien.
J'imagine qu'aujourd'hui, ça vous demande de l'énergie de revenir ici.
C'est-à-dire, en fait, les décisions sont positives pour moi. Une première démarche, c'était la reconnaissance en maladie professionnelle. Ça a été très long. Il y a eu beaucoup de soubresauts.
Mais ça implique ensuite une indemnisation, c'est ça
oui,
aussi.
Oui, il y a une indemnisation que je touche actuellement. Mais j'ai fait autre chose, c'est la reconnaissance de
la faute inexcusable, c'est ça ?
La faute inexcusable. Aujourd'hui, je suis là pour ça. En fait, j'ai obtenu la faute inexcusable. Mais c'est mon ancienne entreprise qui conteste que ce soit lui le payeur et lance un recours contre la mutualité sociale agricole en disant que la MSA a procédé à une reconnaissance de ma maladie en maladie professionnelle. C'était plus dans les délais parce que j'avais fait une déclaration après 2 ans écoulés.
C'est pour ça que ça se rejoue aujourd'hui.
Ça se rejoue aujourd'hui.
Pour faire simple, Agrial a trouvé une solution de faire remettre en cause vis-à-vis de la MSA cette décision du tribunal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on reprend la procédure à zéro. Ça, c'est très douloureux pour Jean-Claude, parce que c'est la fatigue et tout ça.
Je vous sens assez entouré. Il y a peut-être une vingtaine de personnes qui sont là pour vous soutenir. C'est indispensable.
Oui, c'est indispensable. Je me vois mal arriver en solitaire ici, on s'en souvient. Bien que le travail de défense est fait par un avocat qui connaît le sujet, je serais tout seul, ce serait quasiment impossible.
Jean-Claude, je te demande pas si ça va.
Bonjour Jean-Claude. Ça fait plaisir de te voir. Mais bon, là, ça devrait aller là maintenant. La décision va être favorable hein, parce que
c'est
bon,
quoi.
Tu
sens
supprimé.
Oui, c'est ça.
En plus, c'est prioritaire avec Dany, tu vois. Allez, rentrez.
Merci.
Non, bah non, c'est quoi, merci de vous.
Après, on va voir si on peut vous rejoindre. Hein.
C'est terminé, une émission d'info locale qui se veut réflexive et combative à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast et pourquoi pas s'abonner à la newsletter Le Courrier de la Reine, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus, salut.